Le second livre des rois nous rapporte au chapitre 5 l'histoire d'un personnage très attachant nommé Naaman. Nous apprenons que Naaman était chef de l'armée du roi de Syrie, qu'il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Malheureusement, cet homme fort et vaillant était lépreux. Ce dernier détail est particulièrement navrant, surtout dans le cas d'un homme tel que Naaman, qui nous paraît bien injustement frappé par ce mal terrible. Homme brave, jouissant de la faveur de son maître et d'une grande considération, mais lépreux. De toute évidence, cette lèpre dont il était frappé n'était sans doute qu'une maladie de la peau autre que la vraie lèpre, puisqu'elle n'interrompt pas les relations sociales. Néanmoins, cela constituait pour Naaman une véritable affliction dont il se serait bien passé. Nous évoquons ce matin le cas de Naaman parce qu'il illustre parfaitement une certaine attitude morale très commune qui consiste à démontrer au monde chrétien qu'il est très possible de vivre honnêtement sur la terre sans pour cela croire en Dieu. Nous connaissons tous cette catégorie de gens qui se disent athées et qui pourtant mènent une vie droite et irréprochable socialement et peut-être même moralement. Ils prouvent au moins une chose, c'est que certains athées ont une vie plus droite que certains chrétiens. Mais cela ne les justifie aucunement aux yeux de Dieu, car ils sont néanmoins des pécheurs. Or, un pécheur n'est pas essentiellement quelqu'un qui commet continuellement des actes condamnables. C'est cette fausse notion qui conduit certains à se justifier eux-mêmes en disant « Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais rien fait de mal à personne ». La parole de Dieu nous apprend qu'en dehors du Christ, tous les hommes sont dans un état de péché. La bonne nouvelle de l'Évangile, annoncée d'abord par les anges aux bergers de Bethléem, puis par les apôtres au monde entier, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Évangile de Jean, chapitre 3 et verset 16. C'est que Jésus est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Tant que l'homme n'aura pas accepté par la foi et le baptême le sacrifice du Fils de Dieu, il demeurera dans un état de péché, même s'il s'efforce de vivre une vie moralement et socialement droite. La leçon qu'il nous faut apprendre est celle-ci. Une bonne conduite et une bonne moralité ne sauvent pas plus du péché que la force et la bravoure ont sauvé Naaman de la lèpre. Apparemment, il n'y a aucune différence entre l'incroyant et le croyant lorsqu'ils ont tous deux une conduite sociale irréprochable. Pourtant, la différence est énorme. Tandis que l'un agit ainsi pour lui-même et pour la société, l'autre le fait pour Dieu, afin que Dieu soit glorifié à travers l'exemple de sa vie. Deux actions semblables, mais deux effets différents. Tandis que l'une monte en hommage au Créateur, l'autre stagne sur cette terre, car elle ne constitue pas un don. Mais revenons-en à Naaman, le lépreux, pour tirer de la suite du récit d'autres enseignements précieux. Les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » À ce point, Naaman était prêt à faire n'importe quoi pour guérir. Il demande au roi de Syrie la permission de partir pour la Samarie, car il vient d'apprendre qu'il se trouve là-bas un homme capable de la guérir. En homme prévenant qu'il est, il se munit de cadeaux magnifiques qu'il compte offrir au prophète. Il emporte 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et des vêtements somptueux. Tout cela constitue une véritable fortune. Le roi lui accorde l'escorte due à son rang, et voilà Naaman se rendant en grande pompe en Samarie, où l'attend Élisée, le prophète de Dieu. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Voici des conditions auxquelles Naaman ne s'attendait pas. Cette situation nous rappelle que le salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ est lui aussi conditionnel. Dieu ne nous impose pas son salut. Et quoique nous ne parviendrons jamais à mériter le salut, lequel nous est offert comme une grâce, Dieu exige de notre part une certaine attitude de l'âme que la Bible appelle la foi, la repentance et l'obéissance. L'Épître aux Hébreux nous rappelle que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus souligne, tout à la surprise et à l'indignation des Juifs, qu'il est impossible de croire au Père sans croire aussi en celui qui l'a envoyé. Et il ajoute, « Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Souvenons-nous aussi de cette réunion extraordinaire à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, peu de temps après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la première fois dans l'histoire de la Révélation, le salut est annoncé publiquement dans le nom du Christ. Ceux qui entendirent le discours de Pierre et des autres apôtres eurent le cœur vivement touché, et ils dirent « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 38. Malheureusement, les conditions stipulées par Dieu ne sont pas toujours acceptées par les hommes. Elles sont souvent modifiées à notre convenance. Ainsi, Naaman fut irrité en entendant le messager du prophète Élisée. Il rebroussa chemin furieusement. Il était à la fois vexé et indigné. Tout d'abord, Élisée ne s'était pas présenté lui-même devant lui. Il lui avait envoyé son serviteur. Puis, sur la route, il avait déjà imaginé comment les choses devaient se passer. Et il disait, « Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le mal. » Puis il s'exclame avec une fureur contre le commandement d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain, « Mais les fleuves de Damas, son pays, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pouvait-il pas s'y laver dans l'Abana et le Parpar et devenir pur ?» Apparemment, le raisonnement de Naaman était logique. De l'eau, c'est de l'eau. Le Jourdain n'avait aucune propriété miraculeuse et les fleuves de Syrie valaient bien ceux d'Israël. Seulement, Naaman avait oublié qu'il avait affaire à un serviteur de Dieu, à un prophète de Dieu. Or, on ne discute pas les ordres de Dieu. On ne se révolte pas contre Dieu. On se soumet à sa volonté. Ainsi, aujourd'hui encore, il nous paraît raisonnable de substituer certaines pratiques, d'ajouter certaines doctrines à l'ordre primitivement établi par Dieu. La religion, c'est l'expression de l'attachement de la créature à son Créateur. Dieu ne nous laisse cependant pas lui rendre un culte selon les caprices de notre imagination. Dans sa parole, il nous a révélé et sa nature et la nôtre, ainsi que le culte qu'il attend de nous. Il nous met en garde contre ceux qui veulent nous imposer des préceptes qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Or, comment apprendrons-nous à faire la distinction entre un commandement d'homme et un commandement de Dieu, ou entre une doctrine humaine et une doctrine divine, si nous nous entêtons à ignorer le livre où Dieu nous parle? Toute écriture est inspirée de Dieu, écrit l'apôtre Paul à Timothée, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'apôtre ajoute avec une grande ferveur, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, prêche la parole, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Trop de gens espèrent accéder au salut en se conformant à certaines règles ou coutumes religieuses dont ils ne connaissent même pas l'origine. La religion est reléguée au plan de la routine et de l'habitude. Elle est plus un respect des traditions familiales qu'un respect dû à Dieu. Elle est un héritage spirituel de famille, dont on n'examine même pas le contenu. Chers amis, au contraire de Naaman, abandonnons nos idées préconçues et recevons avec douceur la parole vivante qui peut sauver nos âmes. Et si nous lisons dans notre Bible, « Que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur », acceptons pleinement ce commandement et sachons nous y soumettre au lieu de nous révolter. Pourquoi Dieu veut-il que nous soyons baptisés ? Pourquoi le Jourdain et non pas les fleuves de Damas ? Il y a en chacun de nous un Naaman en puissance. Seulement, ne soyons pas plus obstinés que Naaman. En effet, alors qu'il s'en retournait chez lui furieusement, ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui dirent « Si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et sois pur. » Et lorsqu'il se fut conformé à l'ordre du prophète, qu'il trouvait si bizarre, sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Ainsi, le jour de la Pentecôte que nous avons évoqué tout à l'heure, ceux qui acceptèrent la parole de Dieu furent baptisés, au nom de Jésus leur Sauveur. Tous ceux qui avaient ainsi manifesté leur foi, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. En nous conformant ainsi aux exigences de la volonté de Dieu, nous pouvons avoir cette assurance que nous marchons dans les traces des premiers chrétiens, au sein de l'Église du Christ. N'est-ce pas la seule manière de réaliser pleinement l'unité religieuse ?